Bonjour à tous. Donc ce matin, on va continuer avec notre étude des paraboles. Et j'ai choisi d'étudier avec vous ce matin le parabole dit du juge inique. Dans la traduction de Darby. Donc ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Et on va lire les 8 premiers versets. Donc Luc, chapitre 18, les 8 premiers versets. Et je vais la lire dans la traduction du Semeur. On va commencer par la lire et puis ensuite on réfléchira ensemble à ce qu'elle veut dire. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » Alors, vous savez peut-être que j'aime bien les textes qui me dérangent, qui me pose des questions. Et ce texte me dérange. Quand je le lis, je me dis, mais pourquoi, Seigneur, tu utilises cette image? Alors, vous avez peut-être remarqué qu'on est rentré dans la campagne présidentielle et que, dans ce temps de compétition politique intense, toute petite phrase, toute façon de s'exprimer qui prête à mauvaise interprétation, eh bien, chacun se précipite pour dire « Regardez, il a dit ça, oh là là bon. !» Et on se dit « Mais heureusement que Jésus n'était pas un politicien, parce que là, clairement, il donne un bâton pour se faire battre. Hein. Il est en train de comparer, en tout cas à la première lecture, comme ça, en abordant le texte, il est en train de comparer Dieu avec un mauvais juge, avec un juge inique. Et on se dit, mais pourquoi se lancer dans cette, c'est un exercice un peu périlleux quand même, hein, de cette façon d'opposer. Alors en même temps de comparer et en même temps d'opposer Dieu avec quelqu'un qui se comporte mal. Et effectivement, dans les paraboles, Jésus utilise des images. Et donc là, on voit bien, il utilise deux personnes. D'abord, donc une veuve, qui est la personne type de quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, qui dépend des autres pour pouvoir être défendue, parce qu'elle n'a pas les ressources et la place dans la société qui lui permettent de se défendre par elle-même. Et évidemment, on va s'identifier avec cette personne-là, cette personne qui vient se présenter devant celui qui peut la sauver, qui peut l'aider. Et puis de l'autre côté, on a donc ce juge. Alors un juge, dans la société, c'est celui qui a le pouvoir, qui dit le droit, qui détermine qui a tort et qui a raison. Et évidemment, on va identifier ce juge avec Dieu. Et le problème, c'est que dans ce texte, Le juge est mauvais. Il n'a d'égard, alors, ni pour Dieu, ni pour personne. Et on se retrouve confronté à un dilemme. On a un souci. On ne peut pas identifier Dieu avec ce juge-là. Et donc, on est confronté à une dissonance. On est obligé de s'arrêter et de se dire, bon, mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire avec ce texte? Alors, en fait, on sait déjà ce qu'il veut nous dire. Parce que ce passage a le bon goût de nous prévenir d'entrer sur qu'est-ce qu'il veut nous enseigner. Et le premier verset nous dit, pour nous montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans se décourager. Voilà le but de la parabole. Et on se dit, mais pour faire ça, pourquoi est-ce qu'il a besoin de passer par ce mauvais juge? Et c'est intéressant de voir que Jésus, là, décrit la façon de réfléchir de ce juge. On peut même se rendre compte que c'est une façon artificielle, en fait, hein, de décrire ses pensées, parce que personne ne pense comme ce juge. D'accord ? Un homme, quelqu'un de mauvais, dans sa façon de réfléchir, il ne va pas se dire « je suis mauvais, mais bien que mauvais, bon, cette femme, elle m'ennuie, je suis à bout de patience, alors je vais lui donner ce qu'elle veut. » Ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. D'accord ? Cette description, elle est artificielle. On voit bien, en fait, que Jésus prend volontairement l'image de quelqu'un qui n'existe pas. Voilà, qu'on soit bon ou mauvais, c'est pas comme ça qu'on pense. Donc, Jésus utilise donc cette image, cette personne artificielle qui va plier parce qu'elle est à bout de patience. D'accord ? Et il va opposer donc cette figure à Dieu qui, lui, répond rapidement. Jésus nous dit, voilà, Dieu, lui, il ne répond pas comme ce juge. Lui, il répond rapidement et il va vous donner, alors il y a des traductions qui disent vous faire justice. Dans cette traduction-là, c'est défendra le droit. D'accord ? Il défendra le droit ou il fera justice. Mais Jésus, dans ce texte, ne nous dit pas pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça ? On voit comment pense le juge, mais comment pense Dieu, dans ce texte, Jésus ne nous le dit pas. Alors, vous savez peut-être que je suis informaticien. Dans mon métier, on rencontre assez souvent des programmes fermés. Des programmes, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. D'accord ? On n'a pas accès au code source. On ne sait pas comment il a été écrit. Alors, des fois, on n'aime pas tellement ça, mais parfois, on n'a pas le choix. On appelle ça des boîtes noires. Tout ce qu'on peut savoir, c'est la réponse. Donc on peut interagir, demander des choses, et la boîte noire nous répond, répond à nos questions, et c'est tout ce qu'on peut en savoir. Et ici, la façon dont moi je comprends ce passage, eh bien Jésus fait un peu la même chose quand il nous parle de ce Dieu qui nous répond. Et ici, il ne nous explique pas pourquoi il répond comme il le fait. Et alors, bon, ma façon de comprendre ça, c'est peut-être que Jésus veut nous confronter à la vision que nous pouvons avoir de Dieu quand nous sommes dans l'épreuve, dans les difficultés, que nous nous tournons vers lui et qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. On ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu permet ce qui nous arrive. Et parfois, on peut avoir cette vision d'un Dieu capricieux, un Dieu qui ne s'intéresse pas à nous. Et Jésus nous le dit peut-être, alors c'est comme, en tout cas c'est comme ça que je le comprends. Voilà. Même si vous avez cette vision-là de Dieu, eh bien, Dieu ne réagit pas comme ce juge. Il a une autre façon de répondre. Et à vrai dire, ce passage, quand je l'ai lu, m'a fait penser à une situation que décrit la Bible, la situation d'un homme qui se retrouve confronté à un Dieu qu'il ne comprend pas, à une situation, à une souffrance qu'il ne comprend pas, et qui pourtant va sans cesse revenir vers Dieu pour lui parler, pour lui demander de lui répondre. Et bien sûr, quand je vous dis ça, vous voyez bien à qui je pense. C'est Job. Job, cet homme qui se retrouve confronté à un Dieu, à une situation à laquelle il ne, voilà, qu'il ne maîtrise pas. Dans le tribunal que le livre de Job présente, d'accord, ce tribunal où il y a un adversaire qui vient accuser Job. Et Job ne le voit pas, cet adversaire, il ne le connaît pas. Et tout ce qu'il voit, c'est la façon dont Dieu va répondre, et Job va persévérer dans son interrogation, dans sa prière. Et nous, qui avons lu le descriptif du début de Job, nous savons que la façon que Dieu a de répondre, Dieu ne répond pas parce qu'il manque de patience. D'accord? C'est pas ça sa motivation. On le sait bien. Et c'est aussi pour ça que ce passage nous paraît bizarre. On se dit, mais là, Jésus n'est pas en train de nous dire que si on casse suffisamment les pieds à Dieu, il va finir par nous répondre parce qu'il en aura marre. C'est pas ça qu'il est en train de nous dire, parce qu'on sait bien. On sait bien que la motivation première de Dieu, c'est d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour qu'il nous porte, qui le pousse à agir, parce qu'il nous a créés à travers cet amour, on le sait bien. Malgré tout, cet amour parfois nous dépasse. On ne le comprend pas. Parce que dans cet amour, Dieu permet la souffrance, Dieu permet la mort, Dieu permet beaucoup de choses qui nous... On ne comprend pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que nous dit ce texte de la réponse de Dieu, de ce Dieu qui parfois nous semble si incompréhensible? Ce texte nous dit d'abord, alors il nous dit, Dieu fera justice et il la fera rapidement. Il fera justice et il le fera rapidement. Alors d'abord, faire justice, ou défendra le droit. C'est une façon étrange de s'approcher de Dieu. Parce que, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous que Dieu va nous faire justice? Alors d'abord, ce texte nous parle d'un adversaire. Cette veuve vient, elle dit, rends-moi justice face à mon adversaire. Et en effet, il y a un adversaire. Un adversaire qui nous accuse, un adversaire qui lutte contre nous, contre le témoignage qu'on peut apporter. Cet adversaire qui veut nous séparer de Dieu, qui veut nous mentir en nous faisant croire que nous ne valons rien, que nous sommes sans ressources. Comme dans l'histoire de Job. comme dans l'histoire de Job, cet adversaire qui vient en disant « Si tu enlèves à Job tout ce qu'il a, eh bien, il te maudira. » Face à cet adversaire, ce texte nous dit « Dieu nous défendra. » Défendra mon droit. Alors, quel est mon droit devant Dieu? Quel est mon droit? Si je me dis, qu'est-ce que méritent mes actions? À quoi j'ai droit avec tout ce que j'ai accompli? Si c'est comme ça que je pose la question, la réponse est simple. Il suffit de se rappeler de cet épître aux Romains qu'on a étudié et de se rappeler que le salaire du péché, c'est la mort. Si je réclame ce que méritent mes actes, ce que je récolte, c'est la mort. Donc, se présenter devant Dieu en pensant pouvoir réclamer ce qu'on mérite, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si je pense que ce à quoi j'ai droit, c'est une belle vie, une vie libérée des problèmes, une vie sans maladie, sans souffrance. Si c'est ça mon droit, alors je peux me tourner vers le Christ, qui est mon modèle, qui est celui qui marche devant moi, et me rendre compte que, non, ça non plus. C'est pas ce à quoi j'ai droit, une belle vie facile. Parce que celui qui marche devant moi, c'est pas cette vie-là qu'il a choisie. La vie facile, c'est pas ça que je peux réclamer à Dieu. Alors, à quoi j'ai droit ? À quoi j'ai droit ? Eh bien, j'ai droit à ce que Dieu me donne. Et il me donne une nouvelle identité, une nouvelle position devant lui. Il me dit « Tu es mon enfant ». Alors, voilà, ça j'ai droit à ça. Ça je peux dire « Seigneur, voilà, tu me l'as donné. Tu m'as donné cette grâce de pouvoir t'appeler mon Père, de pouvoir m'approcher de toi, parce que tu as payé le prix pour ça. Voilà mon droit. Je peux demander à Dieu, Seigneur, viens à mon secours, viens près de moi. Manifeste ton amour pour moi. Parce que c'est ce qu'il m'a donné, ce qu'il m'a donné en Christ. Je défendrai votre droit rapidement. Le texte ici nous dit, alors dans la traduction, c'est promptement. D'autres traductions disent, il n'usera pas de patience en vous répondant. Donc il va, voilà, il vous répond vite. Alors, peut-être la première chose que moi qui m'est venue à l'esprit en lisant ce rapidement, c'est que je me suis dit, oui, mais bon, si pour lui, 1000 ans sont comme un jour, pour moi, un jour, c'est comme un jour. Hein. Donc, peut-être qu'on n'a pas la même échelle de rapidité. Et pourtant, si on pense à ce à quoi j'ai droit et ce que je réclame, eh bien, il y a effectivement une réponse de Dieu qui est, qui est immédiate, qui est du moins aussi rapide que ce qu'on est capable de la recevoir. Parce que notre défenseur, il ne tarde pas. Notre défenseur est présent continuellement devant Dieu et il entend nos prières. Et il nous répond, il ne nous répond pas dans 1000 ans, il nous répond aujourd'hui. La paix Et la joie que Dieu nous promet, il nous les promet pour aujourd'hui. Cette présence, ce pardon, cette justice, d'accord? Cette justification qui nous a été donnée, nous l'avons aujourd'hui et nous l'avons tout de suite. Nous n'avons pas besoin d'attendre, d'être libérés de nos soucis. Cette libération qui vient par la présence de Dieu dans nos vies, nous l'avons aujourd'hui et nous l'avons tout de suite parce que c'est vrai. Ce texte-là, nous pouvons aussi le prendre au pied de la lettre et dire, voilà Seigneur, oui, je crois que tu me réponds et que tu me réponds aujourd'hui face à mes souffrances, à mes difficultés, face à ce désir que j'ai de voir ta présence dans ma vie et autour de moi. Je crois que tu réponds à ça. Et il y a une autre dimension, évidemment, à cette réponse de Dieu, qui est que cette justice et ce droit qui vont être manifestés le seront pleinement au retour de Christ. Et ce texte nous en parle aussi. Et là, la parole nous dit que Dieu ne tarde pas, qu'il vient bientôt, mais qu'il use cette fois-ci de patience avec nous parce qu'il veut que tous ceux qui lui appartiennent se tournent vers lui. Donc, et là, on peut effectivement penser à ces 1000 ans qui pour nous, ce temps qui dure, et ce retour dont on languit. Et pourtant, Dieu nous dit, voilà, même cette promesse que je vous ai faite de revenir et de manifester ma justice et ma gloire, même là, je ne tarde pas, même si vous avez du mal à le percevoir comme ça. Dans notre vie, c'est vrai qu'on rencontre des obstacles au cours de nos existences. On rencontre des choses, des événements qui nous empêchent d'aller là où on aurait voulu aller. Et face à ces obstacles, on a trois façons possibles de réagir. La première façon, c'est de s'arrêter face à quelque chose qui nous empêche d'avancer. On peut s'arrêter d'avancer, on peut abandonner, on peut dire, puisque c'est comme ça, j'arrête. Une autre façon de réagir, c'est de contourner. C'est peut-être comme ça qu'on réagit le plus souvent. On a quelque chose qui est devant nous, éventuellement, je fais le tour. Je renonce à ce que j'avais prévu au départ, et puis je change de chemin, je fais un détour, je vis avec. Et puis, parfois, on rencontre une épreuve. Et une épreuve, c'est quand cette solution de contournement n'est pas possible et qu'il reste, en fait, que la dernière solution. Et la dernière solution, c'est de lutter. C'est de pousser contre cet obstacle. D'utiliser toutes nos forces pour le résoudre, pour le déplacer, pour l'enlever. Parfois, nos forces suffisent. Parfois, elles ne suffisent pas. Et dans ce passage, Jésus nous propose de lutter. Il nous propose de continuer cette lutte avec persévérance. Donc il y a un passage dans Romains qu'on a lu il n'y a pas si longtemps qui nous dit que Paul se réjouit de ses détresses parce que dans ses détresses, il peut grandir en patience et en persévérance. Et que cette persévérance, au bout du compte, produit l'espérance. Et ça rejoint ce que nous dit ce passage, parce que on se demande pourquoi est-ce que Dieu ne retire pas les obstacles. Ce serait facile pour lui d'enlever les obstacles. Pourtant, il ne le fait pas. Et ce texte nous dit, bien, parce que quel est l'objectif de Dieu là-dedans? Pourquoi toutes ces difficultés? Et ce texte nous dit, bien, sous forme d'une question, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Parce que même si c'est difficile à accepter pour nous, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est vraiment ça l'enjeu. C'est la foi. Dans l'histoire de Job, l'enjeu, c'était pas que Job soit heureux. Job, il a fini par mourir aussi. L'enjeu, c'était sa foi. Et l'enjeu pour nous, aujourd'hui, eh bien, c'est encore la foi. Alors, ce texte nous encourage à exercer notre foi comme un muscle face à ces obstacles qui sont devant nous, de continuer à pousser, de continuer à lutter avec Dieu. Parfois, lutter avec Dieu, c'est lutter contre Dieu. Et on pense à Jacob, qui s'est battu contre Dieu, pour finalement se battre avec Dieu. Et pour nous aussi, l'enjeu est le même. Nous devons continuer à lutter. Alors, ce passage nous montre que la lutte que nous engageons, cette lutte spirituelle, elle n'est pas pour nous libérer de nos problèmes ou de nos soucis. Il y a d'autres passages hein, qui nous parlent de ça et qui nous disent que, eh bien, bien sûr, que face à nos difficultés de tous les jours, que nos soucis pour le lendemain, eh bien, nous pouvons les déposer au pied du Seigneur. Et qu'il faut le faire, que c'est qu'il attend de nous que nous déposions à ses pieds nos soucis, nos difficultés, et il nous dit je prendrai soin de vous, parce que je sais ce dont vous avez besoin. Je pense que cet encouragement que nous lisons ici à crier à lui jour et nuit, je ne pense pas que ce soit de crier à lui jour et nuit pour nos soucis. Je ne sais pas quelles sont les prières qui montent vers Dieu depuis la France, mais je pense qu'on a facilement tendance à râler beaucoup et à réclamer beaucoup. Et notre tendance naturelle, c'est de faire ça. C'est de dire « Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. » C'est naturel. Mais je ne pense pas que ce soit ce que ce passage nous encourage à faire. Nous savons que nous devons déposer nos soucis à ses pieds. Mais une fois qu'on les a déposés, on les a déposés. La lutte dont il est question ici, ce n'est pas une lutte pour nos soucis. C'est une lutte pour la justice. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Le royaume de Dieu, sa présence rendue manifeste dans le monde, c'est ça notre lutte. C'est ça que nous devons réclamer pour nos vies, pour que Dieu règne dans nos cœurs, pour qu'il règne aussi dans la vie de ceux qui nous sont proches, pour qu'il règne dans notre Église, pour qu'il règne dans notre ville, dans notre pays. C'est ça notre combat. Alors, qu'on ne doute pas que le Seigneur réponde à cette prière, et qu'il y réponde tout de suite, parce que Dieu règne là où on lui donne la place. Donc oui, rappelons-nous que Dieu nous répond aujourd'hui contre l'adversaire, qu'il nous promet d'être là pour nous, de prendre notre défense. Et si lui est pour nous, alors qui sera contre nous? Merci.